travaille nos cœurs, que nous ayons des oreilles et des yeux pour entendre et voir combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu nous aimes, et aussi les beaux projets que tu as pour nous. Et je te prie, s'il te plaît, d'accompagner les moniteurs pour enseigner les enfants, mais aussi Jirès pour nous encourager dans notre foi chrétienne et à te connaître toujours davantage. Je te prie encore que tu l'utilises pour cela et que tu nous donnes beaucoup de joie d'être à ton écoute. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, Jirès.
Bonjour. Bonjour à tous. Je vais essayer de mettre le micro et ça marche. Trop bien. Merci à toute l'équipe de louanges pour ces magnifiques chants que nous avons célébrés ensemble à l'honneur de notre Seigneur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jirès, je suis congolais d'origine et j'entends dans la salle, mais oui, il y a des Congos, de quel Congo s'agit-il? Je dirais, je viens du Grand Congo, mais pas du vrai Congo. Donc, vous avez compris ou pas? Donc, je suis congolais de Kinshasa et donc le vrai Congo, c'est le Congo Brazza. C'est une solution diplomatique, comme ça, on ne va pas se battre. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très encouragé d'être là ce matin, de vivre ces temps avec vous. Et comme je l'ai dit, je suis congolais. J'ai habité 12 ans en Tunisie où je suis allé pour les études. Et puis, je suis resté pour la mission et j'étais pasteur dans une église multiculturelle en Tunisie. Et j'ai la joie, ça fait 4 ans que je suis en France pour mes études de théologie. Et je suis très content d'être là avec vous. Ce matin, j'ai un cadeau pour celui qui va deviner ce qui se trouve dans ce paquet. Alors, si vous trouvez, vous partez avec. Alors, devinez ce qui se trouve dans le paquet. Et j'interdis la famille de Sylvain de jouer à ce jeu parce qu'ils connaissent ce qui se trouve dans ce paquet. Je vous laisse deviner. Ah, c'est trop facile s'il y a des indices quand même. Comment? Non. Il faut vraiment deviner. Une Bible? Non. Il n'y a rien? Non. Comment? Des fruits et légumes. Alors moi, je suis allergique aux légumes, donc je ne pourrais pas le mettre là. Quoi d'autre? Waouh! Alors, on va découvrir ensemble. Je vais vous laisser découvrir. Normalement, il y a un gagnant. J'ai entendu le truc. Normalement, il y a un gagnant. On va découvrir. Non, c'est fini là, vous pouvez plus jouer là, les gars. C'est dur à ouvrir, hein, cette dernière. Et c'est vide, les amis. Oui, et donc tu partiras avec les cartons vides, c'est ça? Merci d'avoir joué les jeux. Et en parlant de ces cadeaux vides, et ce matin, on va lire un texte qui illustre justement cette réflexion. Le texte que nous allons lire ce matin, Jésus dénonce une foi de façade. Tout est propre à l'extérieur, bien rangé, alors qu'à l'intérieur, c'est vide. Il dénonce une manière de vivre où les hommes ou les femmes se montrent spirituellement magnifiques, meilleurs devant les autres, alors qu'à l'intérieur, nous sommes vides. Je nous invite à la lecture du texte. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. J'attends la technique. Normalement, ça marche, mais je ne sais pas pourquoi. Tu peux passer les diapos aussi. Je vais essayer. On l'a testé avant de commencer. Ah, ça marche trop bien. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume des dieux. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que le collecteur d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leurs exemples sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin en croire en lui. » Les amis, il y a une foi que Jésus approuve et il y a une foi qu'il n'approuve pas. Avant d'aller plus loin, je vais juste demander à Sylvain, j'ai combien de minutes parce que c'est un danger de donner les micros à un Congolais sans lui limiter. On risque de finir à 13 heures, donc je vais juste savoir, j'ai combien de minutes? 27 minutes, merci beaucoup. Il y a une foi que Jésus approuve, et il y a une foi qu'il n'approuve pas. La parabole que nous venons de lire est racontée par Jésus pour mettre en lumière un comportement qui nous guette tous. Vivre en apparence. Avoir un comportement bien soigné les dimanches matins, mais un comportement chaotique dans la semaine, au travail, auprès de nos voisins. Avoir une foi d'apparence, partir à l'église pour faire plaisir aux parents. En réalité, je n'ai pas envie d'y aller. Faire quelque chose parce que nous voulons montrer aux gens que je suis un vrai, un bon chrétien. Alors Jésus va proposer la parabole pour faire comprendre aux chefs religieux, aux chefs du peuple, que leur manière de vivre la foi, leur manière de vivre la religion n'est qu'une façade. Il ne s'agit pas de dire oui et ne pas faire. Il s'agit de dire oui et de faire ce que Christ nous demande. Et Jésus met en lumière une foi qu'il n'approuve pas. Et il finira par un avertissement. D'abord, la foi que Jésus approuve. Au verset 29. Jésus commence par dire que le premier dit non. Ensuite, il regrette et change d'avis. Je pense que le premier fils, c'est le type de personnes que nous n'aimons pas rencontrer. Ils sont tellement honnêtes, ils disent directement non, je ne suis pas intéressé. Il ressemble à une personne qui prend son temps pour prendre une décision. Son objectif, ce n'est pas de faire plaisir aux autres, mais de réfléchir avant de prendre une décision. Mais il ne fait pas les choses pour les apparences. C'est le type de personnes aussi, lorsque nous partageons la foi avec eux, ils disent tout de suite, non, je ne suis pas intéressé par la foi chrétienne. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'ils écoutent, ils partent, il y a quelque chose sémé dans leur cœur, et peut-être qu'ils reviendront. Les personnes comme le premier fils, j'en ai beaucoup rencontré en Afrique du Nord. Tout de suite, tu partages l'évangile avec eux, ils sont fermés. Ils n'ont pas envie d'entendre quelque chose. Mais quelques années après, 10 ans, 30 ans, ils se rappelleront en disant, je me suis converti parce que j'avais écouté un homme qui m'avait parlé de Jésus il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Il a écouté, il regrette et il change d'avis. Alors je me suis posé la question, pourquoi le premier fils a changé d'avis, a changé sa décision? Le texte est clair. Il regrette d'avoir agi ainsi. Il regrette d'avoir dit à son père non. Il a pris le temps de réfléchir à la question. Plus tard, il change d'avis. Et je me suis dit, il n'échange pas seulement parce que les autres lui ont mis la pression. Il change parce qu'il veut obéir à son père. Obéir à son père, c'est la raison de son changement. Il pouvait dire oui sans réfléchir et faire semblant. Il préfère dire non, réfléchir et dire oui après. Je pense qu'en disant oui à son père pour aller travailler dans ses champs, il a dit non à beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'il a dit non à un match de foot. Peut-être qu'il a dit non à une relation très toxique, une relation amoureuse qui le tire vers le bas. Peut-être qu'il a dit non à un mensonge au travail. Et peut-être qu'il a dit non à plein d'autres choses, parce qu'il veut dire oui à Dieu. Les amis, Dieu nous appelle à lui obéir ces matins. Et peut-être que ça fait des années que vous avez dit non. Parce que vous comparez à l'instant ce que vous allez perdre. Si vous obéissez à Dieu et vous dites « je préfère vivre ma vie comme je le souhaite ». C'est peut-être le moment de réfléchir, de regarder dans la Bible et de comparer ce que nous allons gagner lorsque nous suivons Jésus-Christ. Ça vaut le coup, les amis, de réfléchir. Dans cette salle, on a tous comparé à un moment de notre vie. Lorsque nous avons entendu l'appel du Seigneur, on a tous comparé ce que je vais laisser et ce que je vais gagner. Et peut-être si vous êtes dans la salle, c'est parce que vous avez compris, suivre Jésus, c'est la meilleure chose que nous devons choisir. Lorsque je me suis converti, j'avais un regret dans mon cœur. J'étais prêt à tout abandonner et à suivre Jésus-Christ. Mais il y avait un truc dans mon cœur qui me disait, ça vraiment, est-ce que tu veux l'abandonner? Vous savez c'est quoi? Arrêter de voler de l'argent chez mon père et aller boire avec mes amis. C'était difficile pour moi d'abandonner ça. Je ne sais pas vous dire comment Dieu a fait les choses, mais le jour où j'ai dit oui au Seigneur, j'ai abandonné. J'ai dit non au vol. Le premier fils a pris le temps de réfléchir. Nous ne savons pas combien de temps, mais il change de décision. Il se rend compte que son attitude n'est pas juste. Un non qui devient un oui. Les amis, aujourd'hui, Dieu nous ouvre cette porte pour changer cette décision, pour dire oui à celui qui nous a créés. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à changer cette vie d'apparence. Les amis, la foi que Jésus approuve, c'est une foi qui regrette son attitude d'indépendance et qui reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu pour être pardonné. La foi que Jésus approuve, c'est une foi qui dit non au début, mais qui comprend son problème et regrette son attitude et change et dit oui à Dieu. Où est-ce que vous en sommes, nous, où est-ce que nous en sommes ce matin? Où est-ce que vous êtes ce matin dans votre foi? En 2011, je suis arrivé en Afrique du Nord en tant qu'étudiant avec plusieurs amis. Nous avons commencé les démarches pour trouver une maison. Et nous avons trouvé une super maison dans un quartier très calme. La maison était chère et nous avons demandé au bailleur de faire un geste pour baisser le prix. Parce qu'on arrivait, enfin, en tant qu'étudiant, c'était difficile pour nous de payer ces prix-là. Et on a négocié avec lui, il a dit oui, je suis d'accord pour baisser le prix. Le premier mois, on a payé le prix exact. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va voir s'il va baisser. Le deuxième mois, c'était pareil. Le troisième mois, il n'a pas baissé le prix. Et avec les autres, on a décidé d'aller voir le proprio pour dire, mais tu nous avais promis quand même de baisser les loyers. Il a répondu, oui, je vous avais promis. Et on a dit, mais on attend. Il dit, dans ma religion, c'est autorisé d'avoir la pensée de faire le bien, même si je ne le fais pas. L'effet d'avoir pensé que je peux faire quelque chose de bien compte comme une bonne action pour Dieu. Les amis, ces messieurs nous font penser à ce deuxième fils. La foi que Jésus n'approuve pas. Le deuxième fils est très poli, mais a des façades. Il dit oui tout de suite. Avant même de finir la phrase, il est tout à fait d'accord. devant tout le monde, il fait comme s'il respecte l'autorité de son père. C'est un gars super bien. Il obéit directement à la demande du père. Mais en réalité, il ne fait pas ce que le père lui demande. Le deuxième fils, c'est des personnes qu'on aime voir et travailler avec eux. Ils disent oui sans réfléchir. Mais ne font pas par la suite ce qu'on lui demande. C'est des personnes qu'on rencontre, qu'on croise à l'église. Ils sont bien réceptifs à la parole du Seigneur. Ils connaissent toutes les bonnes réponses sur Dieu. Ils ont toutes les formules de politesse. Oui, mon Seigneur. Mais en réalité, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Le deuxième fils ressemble à certaines personnes qu'on rencontre, qui connaissent très bien la Bible par cœur. Ils peuvent te réciter les symboles des apôtres sans réfléchir. Ils connaissent les nuances de Notre Père dans les évangiles. Tu lui poses la question sur un personnage biblique, tu as tout de suite la bonne réponse. Tu lui poses la question « Comment ça va ?» Il te répond « Je vais bien par la grâce des dieux infinis. » Ce que je vais dire, les amis, ce n'est pas mauvais de répondre ainsi. Ce n'est pas interdit d'avoir la connaissance. Mais si la connaissance ne suit pas les actes, c'est une foi qui est vide. Une foi qui n'a pas pris le temps de réfléchir. Et Jésus dénonce cette attitude. Une foi qui est basée sur ce que je sais faire, sur ce que je connais. Et ce qui est même intéressant dans les textes, il ne se rend même pas compte qu'il fait du mal, le deuxième fils. Il ne voit même pas la raison de se repentir. Parce que pour lui, sa foi tient sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Les amis, quel genre de disciples sommes-nous ce matin? Jésus dénonce un christianisme de face, sans profondeur, sans obéissance. Jésus veut mettre en valeur un christianisme qui suit, qui réfléchit et qui écoute Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu. La foi chrétienne n'est pas l'ensemble des principes qu'il faudrait remplir. Ce n'est pas des cases qu'on doit cocher en disant « Puisque je suis devant le jade, je dois agir ainsi. » La foi chrétienne, les amis, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de dire à tout le monde « Je jeûne 3 fois par semaine. » Je peux lire toute ma Bible en une semaine. Tout ça, c'est juste pour qu'on soit un peu orgueilleux, pour que les autres pensent qu'on fait mieux. Mais en réalité, c'est vide à l'intérieur. J'ai une question pour nous. Qui sommes-nous quand on est seul, quand personne ne nous regarde? Qui sommes-nous? Qui suis-je, Jirès, quand je ne suis pas sur l'estrade, quand personne ne me regarde? Le premier fils nous montre l'exemple de quelqu'un qui est repentant, qui se rend compte de sa situation et qui regrette. Les amis, la grâce de Dieu est pour les personnes qui se repentent, pas pour ceux qui font semblant d'obéir alors qu'ils ne le sont pas. Est-ce que tu continues à faire semblant ce matin devant les autres? Mais en réalité, ta vie est loin d'une vie qui se soumet à l'autorité de Dieu. Jésus pouvait les dire, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu. Et en comparant le premier et le deuxième fils, Jésus va lancer un avertissement. Il pose la question « Qui, selon vous, a fait la volonté du Père ?» Ils répondent tous « C'est le premier ». Ils connaissent la bonne réponse, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de vivre comme le deuxième, alors qu'ils ont la bonne réponse. À cette réponse, le spécialiste de la loi, le chef religieux, le chef du peuple, Jésus confirme ceci. Les collecteurs d'impôts, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. ne sais pas si vous vous rendez compte. Jésus est en train de dire aux responsables religieux, les personnes qui sont censées connaître la loi, guider le peuple, il dit, les prostituées, les collecteurs d'impôts vont vous dévancer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, imaginez, le pasteur que vous aimez le plus, vous entendez Jésus lui dire, les collecteurs d'impôts et les prostituées vont te dévancer. Imaginez un grand théologien que vous connaissez, un éminent théologien que vous connaissez. Jésus dit, les prostituées, les collecteurs d'impôts vont vous dévancer. Imaginez ce matin, dans cette salle, Jésus se pointe et tous ensemble, Jésus nous dit, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est perturbant, les amis. Pour les personnes qui respectent la loi de Dieu, qui ont respecté même la loi de Dieu, ils pensaient respecter la loi de Dieu. Et pendant ces temps, alors que Jésus est en train de parler aux chefs religieux, à côté, il y avait des disciples. Ils écoutaient. Ils n'étaient pas impliqués directement dans la discussion, mais ils écoutaient attentivement. Et ils comprenaient en ce moment-là qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas une foi d'apparence. De la même manière que je nous interpelle ce matin. Si nous croyons que la foi en Christ est une affaire de connaissance et d'apparence, nous nous trompons royalement. Mais ce qui est magnifique, Jésus ajoute, les collecteurs vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les collecteurs d'impôts? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les prostituées, pour dévancer les personnes qui sont censées être eux en avant? C'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Jean est venu et ils ont cru en lui. Les deux personnes citées dans les textes, les prostituées et les collecteurs d'impôts, c'est des personnes rejetées, exclues de la synagogue. C'est des gens de mauvaise vie. Comment les personnes de mauvaise vie dévancent les personnes qui sont censées être des personnes qui mènent une bonne vie? La réponse est simple, parce qu'ils ont cru. Les amis, Dieu est capable de faire qu'une personne de mauvaise vie, exclue de l'église, de la synagogue, dévance celui qui est censé être le responsable de la loi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que les prostituées, les collecteurs d'impôts, tous les autres pécheurs peuvent rentrer dans le royaume de Dieu sans rien faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, s'ils rentrent dans le royaume de Dieu, c'est justement parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et Jésus va ajouter au verset 32, en disant, « Jean est venu, vous n'avez pas cru en lui. » Je me suis dit, mais pourquoi il ne pouvait pas dire lui-même, « Je suis venu et vous n'avez pas cru en moi. » Pourquoi Jésus va citer Jean dans ses textes? Ben, c'est simplement parce que Jean est venu avant Jésus-Christ, et les personnes qui sont en face, ils ont déjà écouté Jean-Baptiste. Et Jésus est en train de dire, les amis, votre endurcissement, l'endurcissement de votre cœur ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de Jean, vous avez écouté, plusieurs personnes ont écouté, ils ont changé. Mais vous, vous n'avez pas changé d'attitude. Et même s'ils avaient des exemples pour changer, ils ont toujours pensé qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et pour couronner le tout, les amis, cette histoire se passe dans le temple. Le temple, c'est l'endroit où les gens venaient pour adorer Dieu, pour prier. Et comment ils n'ont pas compris que c'est lui qui est en face et Dieu, il mérite l'adoration. Comment ils n'ont pas compris que c'est lui qui est en face, s'appelle Jésus. Comme quoi, les amis, nous pouvons aller chaque dimanche à l'église, mais sans être réellement convaincus de celui à qui nous devons notre adoration. Nous pouvons aller tous les dimanches à l'église, prier toute la semaine, sans comprendre vraiment celui que nous adorons. Les amis, Jésus doit être au centre de notre adoration. Le temple où se trouvait le chef religieux était beau de l'extérieur, comme ses cadeaux, mais vide à l'intérieur. Les personnes qui étaient responsables dans les temples montraient qu'ils étaient spirituellement bons devant les autres, mais vides à l'intérieur. Ils étaient des tombeaux blanchis. Les amis, ces cadeaux étaient beaux de l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Et Jésus nous dit ce matin, attention aux apparences. Si on faisait un IRM spirituel, alors le mot il n'est peut-être pas juste, mais si on faisait un IRM spirituel ce matin, qu'est-ce qu'on verrait de nous tous? Qu'est-ce qui se passerait quand on va récupérer notre radio, le truc, pour regarder, mais qu'est-ce qu'on va voir? Croire en Jésus, les amis, c'est faire sa volonté. Il ne s'agit pas de dire oui trop rapidement sans réfléchir, sans tenir compte de l'engagement que nous avons pris. Nous devons prendre le temps de réfléchir. Et si nous vivons dans les apparences, Jésus nous appelle à changer. Où est-ce que tu te situes ce matin? À quel fils tu te ressembles? Je nous invite à la prière. Peut-être que ce matin, ça fait des années que vous êtes là et vous vivez vraiment dans les apparences. Vous avez envie d'abandonner, mais c'est plus fort. Vous vous posez la question, mais comment je peux faire pour abandonner? Vous êtes peut-être découragé. Et vous êtes tout le temps en train de réfléchir, en train de se battre avec cette idée de vivre par les apparences. Je nous invite à fermer nos yeux. Si vous êtes là dans la salle, juste levez la main là où vous êtes. Et on va demander au Seigneur et nous encourager de vivre une foi qui est authentique. Peut-être que vous êtes aussi dans la salle ce matin et ça fait des années que vous avez dit non au Seigneur. Et ce matin, vous voulez peut-être comparer ce que vous allez abandonner et ce que vous allez gagner si vous continuez à suivre Jésus-Christ. Et vous voulez faire ces pas ce matin. Je vais juste vous demander de lever la main là où vous êtes. On va garder les yeux fermés. Et je vais prier pour nous. Seigneur Jésus, je pense à ce que tu as fait pour nous à la croix. Je pense à ces jours-là, au jardin de Gethsémané, alors que tu voulais tout abandonner. Tu as dit que ta volonté soit faite, parce que tu voyais le salut de l'humanité, parce que tu voyais le nombre de personnes qui allaient être sauvées par toi. Et Seigneur, je t'ai pris ce matin. Merci pour toutes les personnes qui ont levé la main. Que tu changes dans leur cœur par ton esprit, qu'ils puissent réaliser la bonté, la grâce, la joie et la paix de Dieu. Seigneur, qu'ils découvrent ce qu'ils vivront s'ils continuent à te suivre. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu régneras. Et tu viens à notre secours. Et ce matin, je t'ai prié, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à vivre une foi qui te glorifie, notre Dieu. Viens nous aider à vivre une foi qui est remplie d'amour et qui te suit. Seigneur, je t'ai prié pour mes frères et sœurs qui ont levé la main ce matin. Continue à les encourager. Que ton esprit, Seigneur, continue à leur montrer le chemin et à les transformer jour après jour. Transforme-nous ce matin, Seigneur. Amen.